Séminaire sur l'argument ontologique, coordonné par le père Marie-Dominique Philippe, le 6 décembre 1984, Saint-Joseph.
Donc nous allons faire ce séminaire sur Saint Thomas. On pourrait se demander pourquoi Saint Thomas, parce qu'il n'y a pas de preuve ontologique. Alors on pourrait se dire, bon, le séminaire est terminé, quoi. Mais c'est Saint Thomas qui utilise Saint Anselme et qui le commente dans divers passages donc que nous allons lire. Or, nous remarquerons que dans ces divers passages, donc je les prendrai au niveau chronologique, qu'il y a une progression de saint Thomas. C'est ce que nous allons surtout regarder dans un premier temps. Puis après, nous allons faire une étude. On va essayer de réfléchir un peu là-dessus, quoi. Alors, tout d'abord, c'est dans le commentaire des sentences. Alors c'est la première œuvre de saint Thomas, il l'a faite quand il était étudiant. Il commente simplement les sentences de Pierre Lombard, or si bien que son ordre n'est pas le même que dans la Somme ou dans les autres œuvres. Parce qu'il commence à traiter de la Trinité, et puis après de l'unicité de Dieu. Et après, dans la distinction 3, il traite de la manière dont Dieu peut être connu par l'intelligence créée. Alors, dans la première question, donc de la distinction 3, donc c'est la réflexion propre de saint Thomas, dans l'article 1, saint Thomas se demande si Dieu peut être connu par l'intelligence créée. Dans le deuxième article, il se demande s'il est connu percé que Dieu existe. Et puis, dans le troisième article, après, il se demande si Dieu peut être connu par l'homme à partir des créatures. Alors, nous allons voir l'article 2, où saint Thomas demande s'il est connu par soi, percé, on traduit directement, Que Dieu existe. Alors nous verrons que dans la suite, c'est toujours cette question. Est-ce que l'existence de Dieu est atteint, percé, est connu, percé. Alors, on va tout de suite commencer par le corps de l'article, et après nous verrons une objection. Alors saint Thomas dit que, donc dans le Respondeo, on peut parler d'une manière double, duplicitaire, au sujet de la connaissance, quoi, d'une chose. Secundum ipsam rem et puis quod nos.
Donc nous avons la connaissance.
Là il ne précise pas encore, mais c'est le percé.
La connaissance qui divise entre le secundum. Et puis le quod nos. Alors je mets ça au tableau parce que ça reviendra constamment dans les articles,
dans les corps d'articles. Alors il dit que si on considère Dieu sur la première manière, secundum Dieu en lui-même, son essai est connu percé. Alors il faut bien comprendre le percé notum.
Alors ça, c'est la distinction du percé notum.
Alors, si on prend la première distinction, Dieu est connu percé. Par contre, si on prend par rapport à nous, quod nos, mais si on considère Dieu par comparaison à nous, Alors, il faut faire une nouvelle distinction. Et cette distinction, d'après, il ne la fera plus dans les œuvres suivantes. Or, je la mets pas au tableau, cette distinction, parce que peut-être que c'est une influence encore de... Quoi, il était... Il se détache petit à petit d'Albert le Grand. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une influence d'Albert le Grand. Mais il fait une distinction entre... Alors, selon sa similitude et sa participation... Et par ce mode, l'être de Dieu est connu par Persée. Et puis, alors, et puis l'autre distinction, c'est secundum suppositum. Alors, c'est-à-dire selon ce qui est supposé, c'est-à-dire en considérant Dieu lui-même, selon qu'il est dans sa nature quelque chose d'incorporel, et alors il n'est pas connu Persée. Ça, je sais pas. Cette distinction, oui. C'est assez délicat parce que. Vous voyez que dans le Koanos, là, Dieu peut être connu per se, selon la première modalité, et puis selon la deuxième, il n'est pas connu per se. Or que nous verrons dans la suite, il ne fera plus du tout cette distinction-là. Alors, on va laisser de côté la suite de l'article, qui d'ailleurs qui sera très proche du suivant, dans le De Veritate. Alors, il faut regarder, je crois, la quatrième objection, donc en faveur de l'existence de Dieu, si Dieu est connu per se. Or, et cette objection s'appuie donc sur le chapitre 3 du proslogium, c'est-à-dire sur le point de vue négatif de l'argument. Alors, il reprend à peu près les termes de saint Anselme. Est connu per se, une proposition est connue per se, une proposition connue per se, quoi plutôt, ouais. Bon, est connu per se, ce dont on ne peut pas penser qu'il n'existe pas. Mais on ne peut pas penser que Dieu n'existe pas. Et donc, il est donc l'essai de Dieu est connu par soi. Alors, saint Thomas se réfère à saint Anselme, à ce niveau, on ne peut pas penser que Dieu n'existe pas. Il dit, la preuve de la mineure, donc on ne peut pas penser que Dieu n'existe pas, est donnée par saint Anselme, et c'est dans le chapitre 3. Alors là, on revient à cette fameuse affirmation de saint Anselme. Alors, il dit, Deus est quo maius cogitari non est. Donc Dieu est ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Alors, si vous remarquez déjà quelque chose, c'est qu'il n'y a pas le credimus déjà. Mais ce qu'on ne peut pas penser ne pas être est plus grand que ce qu'on peut penser ne pas être. Donc on ne peut pas penser que Dieu ne soit pas. Donc ça c'est l'argument de saint Anselme. Et puis, il dit qu'on peut le prouver d'une autre manière. Donc, on peut prouver d'une autre manière qu'on ne peut pas penser que Dieu n'existe pas. Aucune réalité ne peut être pensée sans sacuité. Ainsi, on ne peut pas penser l'homme sans penser qu'il soit un animal raisonnable, mortel. Mais la quidité de Dieu est son essai même, son ipsum sum esse. Alors là, il se réfère à Avicenne. Et donc, il conclut, on ne peut pas penser que Dieu n'existe pas. Alors, si on regarde la réponse maintenant de saint Thomas, alors il va interpréter saint Anselme de cette manière. Il dit, le raisonnement d'Anselme doit être compris ainsi. Après avoir saisi par l'intelligence, c'est le verbe intellego, Dieu, après avoir saisi par l'intelligence Dieu, nous ne pouvons pas saisir qu'il soit à la fois Dieu et que nous puissions penser qu'il ne soit pas. C'est-à-dire, une fois qu'on a saisi ce qu'est Dieu, on ne peut pas comprendre qu'il soit Dieu et qu'il n'existe pas. Quoi. C'est ça. Cependant, il ne s'ensuit pas que quelqu'un puisse nier que Dieu existe ou penser que Dieu n'existe ou que Dieu n'est pas. En effet, on peut penser qu'il n'existe rien de tel qu'on ne puisse rien penser de plus grand. C'est pourquoi le raisonnement d'Anselme procède à partir d'une supposition. On suppose que quelque chose est le comaius. Alors, une petite réflexion donc sur cet article. Alors, nous voyons donc, je crois, dès le départ, il faut remarquer que saint Thomas regarde la manière dont on peut connaître l'existence de Dieu. Je crois que c'est important, c'est la manière dont on connaît l'existence de Dieu. Et donc, tout de suite, on voit qu'on est dans une question critique. Alors, sur quoi porte la critique de saint Thomas par rapport à saint Anselme? Je crois qu'elle porte en fait sur la première affirmation de saint Anselme, sur le « quo maius cogitari non potest ». Il reproche surtout à saint Anselme de présupposer que justement Dieu est « quo maius cogitari non potest ». Parce qu'on n'est pas obligé de penser que ceci existe dans la réalité. Mais alors, une fois qu'on sait ce qu'est Dieu, alors il est absurde de nier que Dieu n'existe pas. Mais si on ne saisit pas ce qu'est Dieu, alors on peut très bien nier l'existence de Dieu. Alors, aussi, remarquons que saint Thomas ne dit pas « credimus », mais seulement « Dieu est ». Or, nous verrons ce problème après, à la fin. Puis enfin, je crois qu'il faut faire une autre remarque, c'est que dans le commentaire des sentences, saint Thomas ne répond pas à la deuxième objection qui était celle-ci, à savoir qu'aucune réalité ne peut être pensée sans sa quiddité. Il ne précise pas le quidsit de Dieu, alors qu'après, donc, il le précisera. Nous allons voir après le De Veritate. Donc c'est une œuvre qui est un peu plus ancienne. Et là, la pensée de saint Thomas commence à se dessiner. C'est la question 10. À la question 10, saint Thomas traite de l'esprit en lequel est l'image de la Trinité. Et puis dans l'article 12, il se demande s'il est connu percé, donc c'est toujours le percé, percé notum, s'il est connu percé, que Dieu, et s'il est connu percé par l'esprit humain que Dieu existe, comme les premiers principes des démonstrations que nous ne pouvons pas penser ne pas être. Qu'on ne peut pas penser ne pas être. Alors, dans le De Veritate, dans cet article, il y a 10 arguments en faveur donc de l'existence de Dieu. Ensuite, il y a 17 contrats. Et après, il y a les réponses il y a la réponse d'abord aux 10 argumentations. Et après, la réponse aux 17 contrats. Naturellement, nous n'allons pas tout regarder. Alors je ferai pareil, là je regarderai d'abord le corps de l'article. Dans une partie, il est très proche du commentaire. Alors, il commence par dire ceci. On rencontre une triple opinion autour de cette question. Alors, certains ont dit que l'existence de Dieu n'est pas connue per se, n'est pas connue, n'est pas saisie, c'est le verbe skio là, n'est pas connue par une démonstration, mais seulement reçue par la foi. Alors il s'appuie sur Moïse, Rabbi Moïse. Pour dire ceci, il mettait en lumière la fragilité des raisonnements que beaucoup exposent pour prouver le fait que Dieu existe. Alors donc nous voyons,
pour certains, il y a simplement la foi. Alors je mets en latin. Affidé. Donc là, ce n'est pas le verbe connaître, hein. Simplement reçu. L'existence de Dieu est reçue.
Alors, il y a donc la deuxième opinion. Dieu n'est pas connu par soi, mais par une démonstration.
Père.
Et puis en troisième lieu, la troisième opinion, c'est que Dieu est connu par soi. Alors, ça, là, il situe Avicenne. C'est intéressant de voir que là, il situe Saint-Anselme ici. On raconte toujours qu'il ne fait jamais allusion à la foi de Saint-Anselme. Alors, au sujet donc de la troisième, il dit « Nul ne peut penser intérieurement que Dieu n'existe pas, bien qu'il puisse l'exprimer de l'extérieur et penser intérieurement les mots qu'il prononce. » Or, saint Thomas après réfute donc tout de suite les deux premières opinions, puis il dit que dans les deux autres opinions, il y a quelque chose de vrai. Et là, il va expliciter ce qu'il entend justement par le Per Se Notum. Alors là, il dit secundum se, donc il divise le Per Se Notum en secundum se et en quod nos. Et donc il donne la même conclusion que Dieu est connu par soi, secundum se, mais pas quod nos. Et il dit que pour cette raison, il est nécessaire pour nous d'avoir des démonstrations prises à partir des effets pour connaître que Dieu existe. Donc là, il précise qu'il faudra une démonstration. D'ailleurs, je crois qu'il le dit quand même aussi dans le commentaire, mais on ne l'a pas vu. Alors, il explique donc le Per Se Notum, qu'on n'a pas encore bien saisi. Alors, quelque chose est connu per se si le prédicat, alors ça je sais pas, c'est dur à traduire. Si le prédicat existe à partir de la signification du sujet, à partir de la ratio subjecti. Oui, alors c'est ainsi. Oui, c'est. Alors. Ad hoc quod aliquid sit per se notum, nihil aliud requiritur, nisi ut praedicatum sit de ratione subjecti.
Oui. Que l'attribut soit de la raison même du sujet.
Oui, soit de la raison du sujet.
C'est-à-dire est impliqué dans l'essence même du sujet.
C'est ça. C'est-à-dire, oui, il l'explicite après. Oui. Oui, mais après ça le sera encore plus lorsqu'on arrivera à la somme, c'est vraiment... Oui, c'est de plus en plus précis, c'est assez incroyable. Bon, je saute un peu. Je ne peux rien sauter, bon. Alors, ainsi, le sujet ne peut être pensé sans que... Là, il met le pet cogito. Sans que le prédicat apparaissent exister à lui-même, Sibi. C'est pas facile à comprendre. Pour qu'une proposition, quoi, c'est entre parenthèses, quoi, soit connue, percée, il faut que la ratio subjecti soit connue par nous. J'ai oublié. La ratio subjective en laquelle est contenu le prédicat. Et dès lors, certaines choses sont connu, percé par tous. Alors là, il donne un exemple, c'est l'exemple du tout et de la partie, dont on connaît la ratio du tout et de la partie. Dès qu'on connaît la ratio du tout et de la partie, on sait tout de suite, immédiatement, que le tout est plus grand que la partie. Et puis il dit que d'autres choses sont connues, percées, seulement par les sages. Là, c'est-à-dire que la signification des termes étant ignorée communément. Voilà, après il se réfère à Boès. Là, je crois que je peux sauter. Alors, ensuite. Alors, il poursuit donc. Alors, cela même qu'est laissé n'est enfermé parfaitement dans la signification d'aucune créature. Créatura, c'est la ratio, hein, toujours, c'est toujours la ratio, la raison des créatures. Car dans n'importe quelle créature, on distingue son essai de sa quiddité. Et donc, on ne peut pas dire, au sujet de n'importe quelle créature, que son essai soit connu, percé, et secundum se. Comme l'essai n'est pas parfaitement inclus dans la créature, eh bien, l'existence de la créature, l'essai de la créature n'est pas connu directement, n'est pas connu per se, secundum se. Oui, on n'a pas l'évidence. Oui, je crois que
c'est la perséité d'une proposition, c'est l'évidence de la proposition.
Oui. Je crois que c'est de mieux à comprendre.
La proposition est évidente dans la mesure où justement on la saisit directement sans avoir besoin d'un intermédiaire, d'un détection. Elle est connue immédiatement. Le lien entre l'attribut et le sujet est connu immédiatement. Donc c'est une proposition percée.
Mais là, comme le lien n'est pas immédiat.
Comme le lien entre votre existence et vous-même n'est pas immédiat, n'est-ce pas ? Entre votre nature et votre existence, il faut nécessairement l'intervention de tout.
C'est ça. Alors. Mais en Dieu, son essai est compris dans sa ratio quiditatis, dans la raison de quidité, dans sa raison de quidité, car en Dieu, le quid essai est identique à l'essai, ça il se réfère à Boès et à Denis, et le anest est identique au an quid est, est identique au quid est, se réfère à Avicenne. Et ainsi, l'existence de Dieu est connue. Est évidente, secundum se, parce que son essai égale, parce que l'essai de Dieu, c'est sa.
Celui qui connaît la ratio de quidité divine. Si vous connaissez la ratio de quidité divine, l'existence de Dieu est évidente.
Oui.
Puisque l'exister est contenu dans sa nature, dans ce qu'il est. Mais il faut connaître la nature de Dieu.
C'est ça. Mais alors justement.
Si vous ne connaissez pas la nature de Dieu, vous ne pouvez pas savoir que l'exister est impliqué avec immédiateté.
C'est pour ça qu'il dit. Mais parce que la quidité de Dieu n'est pas connue par nous, ainsi, Dieu n'est pas connu directement, quoan nos. N'est pas connu et n'est pas évident. L'essai de Dieu n'est pas évident, quan nos.
La position existait, Dieu existe-t-il, n'est pas évident pour nous.
Et ceci réclame une démonstration. Alors, là donc on voit tout de suite que saint Thomas, par rapport au commentaire, précise donc au niveau de la quidité de Dieu. Il dit qu'on ne peut pas saisir le quid sit de Dieu.
Et en ce sens-là, là, il est dans toute la grande tradition. Toute la tradition des pères.
Alors que saint Anselme, c'est différent.
Très unique.
Alors maintenant, dans les objections, je crois qu'elles seraient intéressantes, mais nous allons regarder simplement. Alors la première objection s'appuie sur Damascène, comme souvent. Et puis la seconde, saint Thomas se réfère à saint Anselme. Alors, c'est sur le chapitre Oui, c'est aussi la même objection pratiquement que le commentaire. Quoi. Dieu est equo maius qui guitari non potest. C'est plus facile en latin. Alors. Mais ce qui peut être pensé ne pas être est plus petit que ce qui peut être pensé, que ce qui ne peut pas être pensé ne pas être. Donc ça c'est le chapitre 3 du Proslogium. Donc Dieu ne peut pas être pensé, ne pas être. Donc on ne peut pas penser que Dieu n'existe pas. Alors, ça c'est connu. Or, il répond ainsi. Ce raisonnement conviendrait si le fait que Dieu ne soit pas connu, que l'essai de Dieu ne soit pas évident, percé donc, venait de la part de Dieu. Mais le fait qu'on peut penser qu'il ne soit pas, que Dieu n'existe pas, vient en fait de notre part, ex parte nostra, qui sommes faibles pour connaître les choses les plus connues en soi. Or de là, le fait qu'on puisse penser que Dieu n'existe pas, n'empêche pas qu'il soit encore, justement, ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Alors, la critique ne porte pas tout à fait sur la même chose que dans le commentaire. Elle porte surtout sur la contradiction à laquelle aboutissait saint Anselme. À savoir que si on pense que Dieu n'existe pas, alors il n'est pas ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Or, saint Anselme disait c'est impossible, on aboutit à une contradiction, donc Dieu existe. Mais alors saint Thomas répond par le fait qu'on peut penser que Dieu n'existe pas à cause de la faiblesse de notre intelligence. Alors je crois en fait c'est la distinction qui revient. Pour nous, l'exister de Dieu n'est pas évident à cause de la faiblesse de notre intelligence. Mais secundum se, Dieu reste toujours ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Alors, on peut dire donc que saint Thomas sauve d'une certaine manière saint Anselme, à savoir que saint Anselme, quoi, il interprète, saint Thomas interprète de cette manière saint Anselme. Saint Anselme dirait que l'existence de Dieu est connue, est évident pour nous, non, pardon, est évident secundum se. C'est plus facile en latin, et percé notum secundum se. Mais cependant, et là il ne fait pas encore l'objection directement à saint Anselme, mais cependant, il affirme, ce qui raconte saint Anselme, que la cuidité de Dieu ne peut pas être saisie. On ne peut pas connaître la cuidité de Dieu. Alors voilà, alors on verra ça. Alors maintenant, on va voir un petit passage. Dans le commentaire de Boèce. Du De Trinitate de Boèce. Alors là, ça sera beaucoup plus court. Alors c'est toujours au sujet, c'est au sujet de la connaissance des choses divines. Et dans la première question du prologue, à l'article 2, saint Thomas se demande si l'esprit humain peut parvenir à la connaissance de Dieu. Et puis à l'article 3, il se demande si Dieu est-ce que connaît en premier lieu l'esprit humain. Alors, c'est pas tout à fait la même question, mais c'est très proche. Ouais. Si Dieu est ce que connaît en premier lieu l'esprit humain. Alors, cette fois, il ne donne pas dix preuves en faveur de l'existence de Dieu, quoi, 10 arguments en faveur de l'existence de Dieu, mais il en donne 6. Alors là, à la 6e, saint Thomas se réfère à saint Anselme. Je crois qu'il se réfère aussi. Il se réfère aussi directement à saint Anselme. Et aussi à Damasène aussi, qu'on fêtait il n'y a pas longtemps. Alors, les choses. Alors, ça, c'est donc la sixième qui fait. Le sixième argument. Alors, les choses connues naturellement et dont on ne peut pas saisir par l'intelligence, c'est le verbe intelligo, par l'intelligence ce qu'elles ne sont pas, sont celles qui se présentent en premier lieu à notre connaissance. Mais la connaissance de l'existé de Dieu est enracinée naturellement. Et on ne peut pas penser que Dieu n'existe pas. Alors ça, il se réfère à saint Anselme. Donc Dieu est connu de nous en premier lieu. C'est ce que l'esprit humain connaît en premier lieu. Voilà. Ça paraît gros, mais... Oui. Mais on verra. C'est l'intelligence connaît en premier lieu Dieu. Alors, la réponse de saint Thomas. Alors là, c'est, il s'appuie exactement sur la même distinction, mais il dit plus secundum se, mais il dit quantum est in se, l'existence de Dieu en tant quoi qu'il existe in se en soi. Alors, l'existé de Dieu, quantum est in se, est connu, est évident. Parce que son essence, c'est son essai. Alors là, il dit effluentia, pour essence, quoi, je suppose que... Effluentia. Voilà. On traduit dans l'être à Dieu, c'est traduit par essence. Et il dit... Je ne sais pas comment on pourrait traduire autrement. Alors, c'est ainsi que parle saint Anselme. Mais il dit, mais pas pour nous qui ne voyons pas son essence. Puis alors saint Thomas répond à Damascène. Mais cependant, on dit que la connaissance de Dieu est innée en nous, en tant que nous pouvons facilement percevoir que Dieu existe par le moyen des principes qui sont innés en nous. Saint Thomas, après, ne répondra pas de cette manière à Damascène. Là, on dirait qu'il y a des principes innés en nous qui font que Dieu est connu. Je sais pas, il ne répondra pas après comme ça, saint Thomas. Voilà, qu'est-ce qu'il y aurait à dire sur ce commentaire ? Alors, à nouveau, disons, saint Thomas interprète de façon respectueuse saint Anselme, quoi. Bon, et puis... Oui. Alors, il dit qu'il y a aussi quelque chose de très... Saint Thomas reparle aussi, donc, de l'essai de l'essence, donc... Il dit donc que nous ne voyons pas son essence. Donc nous ne voyons pas son essence par l'essence. Par contre, si nos sens atteignaient directement Dieu, eh bien Dieu serait connu directement. Et dans le De Veritate, dans le corps de l'article du De Veritate, il disait que lorsque nous serons dans la patrie, dans le ciel, nous verrons son essence. Et donc Dieu sera connu. Percé sera donc l'existence de Dieu sera évidente pour nous lorsque nous contemplerons l'essence de Dieu. Bon, ça c'est assez court. Alors, le contrat gentillesse. Alors, le contrat gentillesse, dans le contrat gentillesse, il va être très proche de la somme. Alors. Alors là, il est plus tardif. Alors, dans le livre premier, donc du Contrat Gentilesse, saint Thomas traite de l'existence de Dieu. Et là, c'est divisé en chapitres. Alors, on va regarder le chapitre 10 et 11. Au chapitre 10, qui s'intitule ainsi, « De l'opinion de ceux qui disent qu'on ne peut pas démontrer que Dieu, que Dieu existe, puisqu'il est connu, percé. » Alors, ayons toujours dans la tête ça, puisque Dieu est connu, percé, donc il n'y a pas besoin de démonstration. Alors, il va parler de ceux qui disent ça. Et dans ses opinions, saint Thomas met saint Anselme, et puis il doit le mettre certainement Damascène, mais il met saint Anselme dans cette opinion-là. Alors, on va regarder aussi tout de suite la réponse de saint Thomas. Alors en fait, ça, disons, ce qui correspondrait au corps de l'article, c'est-à-dire au chapitre 11, au numéro 66. Alors saint Thomas essaye de trouver une origine à cette opinion qui affirme qu'on n'a pas besoin de démontrer l'existence de Dieu parce que l'existence de Dieu est évidente pour nous, est évidente. Alors disons pas quoi de nos parce que ça risque de faire des confusions. Alors elle provient, alors il donne deux origines. Elle provient en partie de la coutume par laquelle on est habitué dès le début d'entendre et d'invoquer le nom de Dieu. Mais cette habitude qu'a principalement l'enfant gagne la puissance de la nature. De là, il arrive que ces coutumes dont l'esprit est imprégné dès l'enfance, on les possède fermement comme si elles étaient connues naturellement et percées. Comme si elles étaient connues donc naturellement et évidentes, quoi, comme si elles étaient évidentes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez-moi, je... Oui. Alors, en fait, ça, dans cette première cause, saint Thomas répond en fait d'une autre manière à Damascène. Il répond plus par ses principes innés, il me semble. Mais il affirme que l'existence de Dieu est enracinée naturellement en nous, est enracinée naturellement en nous à cause des habitudes, à cause des coutumes. Alors, après, saint Thomas répond donne une deuxième raison, donc qu'on a déjà vu, quoi. Alors, il dit, cette opinion donc, provient en partie du fait qu'on ne distingue pas ce qui est connu, connu, percé, simpliciter. Cette fois, il dit simpliciter, mais ça, je crois que ça revient au même. Quoi, peut-être pas tout à fait, mais ce serait intéressant de voir tous les termes qu'il met, mais...
Quand c'est domine, c'est le percé, codum, c'est... Puis il y a aussi le simpliciter.
Puis dans l'autre, il disait quantum est in se. Alors donc, il distingue le simpliciter du quod nos. En effet, simpliciter, Dieu, l'existence de Dieu est évidente, puisque cela même que Dieu est son essai. Mais parce que nous ne pouvons pas concevoir par l'esprit cela même que Dieu est, cela demeure inconnu quod nos. Alors là, donc, il donne toujours le même exemple, du tout et de la partie. le tout est plus grand que sa partie, cette proposition, que tout tout est plus grand que sa partie, est connue simpliciter per se. Cette proposition, le tout est plus grand que sa partie, est connue simpliciter per se, mais à celui qui ne concevrait pas par son esprit la signification, la ratio, rationem totius, la raison du tout, il serait nécessaire que cette proposition demeure inconnue à lui. C'est ainsi que devant ce qu'il y a de plus connu parmi les réalités, notre intelligence se comporte comme l'œil de la chouette devant le soleil. Alors, il semble aussi qu'il y ait une précision au niveau des termes. Il ne dit plus seulement la quidité de Dieu, mais il dit concevoir par l'esprit cela même que Dieu est. Hoc ipsum quod Deus est. Peut-être qu'il y a une précision là, dans saint Thomas. Or, ce n'est pas la peine de faire des commentaires parce que c'est pareil que précédemment. Alors, nous allons voir une objection. Il y a deux objections donc, qui s'appuient sur saint Anselme, mais là, saint Anselme n'est plus nommé. Hein? Il faudrait que j'aille un peu plus vite parce que ça. Oui. Alors, dans les deux premiers arguments. Alors, je vais rapidement. Donc, on dit que son. C'est dans le chapitre 10, numéro 60. On dit que sont connues per se les choses que l'on connaît dès l'instant où les termes sont connus. Il donne un exemple. Connaissance qu'est le tout, bon, etc. Mais c'est de la même manière que nous disons que Dieu existe. En effet, nous saisissons par l'intelligence, par le nom même de Dieu, quelque chose, quo maius cogitari non potest. Mais ceci est formé dans l'intelligence par celui qui entend et intellige le nom de Dieu. Quoi, et je traduis intellego par saisir par l'intelligence. Hein. Il faut dès lors que Dieu existe au moins dans l'intelligence, et il ne peut pas exister seulement dans l'intelligence, car ce qui existe dans l'intelligence et dans la réalité, inre, est plus grand que ce qui existe seulement dans l'intelligence. Mais la ratio du nom même de Dieu démontre qu'il n'existe rien de plus grand que Dieu. Reste donc que la proposition « Dieu existe » est connue per se, comme ceci est manifeste à partir de la signification même du nom. Alors simplement, une petite remarque. Donc là, c'est saint Thomas se réfère cette fois au chapitre 2 du Proslogium, donc à l'argument positif pour la première fois, mais saint Anselme n'est pas cité. Et saint Thomas précise aussi la signification du nom Dieu. On intellige le nom Dieu. Bon, je passerai rapidement. Alors, si on regarde la réponse. Connaissant la signification du nom Dieu, ceci n'entraîne pas aussitôt que soit connue l'existence de Dieu. Alors, saint Thomas donne deux raisons. Parce qu'il n'est pas connu par tous, même par ceux qui acceptent que Dieu existe. Que Dieu soit quo maius cogitari non possit, puisque nombre d'anciens ont dit que Dieu était ce monde, et même des interprétations du nom Dieu que Damascène donne, aucune ne donne à saisir par l'intelligence quelque chose de tel. Alors, je passerai rapidement parce qu'on le reverra dans la somme, ça. Puis saint Thomas donne une deuxième raison. Parce que, alors tout d'abord, donc on dit on peut pas saisir. On ne peut rien saisir du nom de Dieu. On ne connaît pas la signification du nom de Dieu. La deuxième raison, parce qu'à supposer que tous entendent par le nom de Dieu quelque chose, comme aïs cogitari non possit, il ne serait pas nécessaire qu'existe dans la réalité, in rerum natura, quelque chose dont on ne peut rien penser de plus grand. En effet, il est nécessaire de poser de la même manière la réalité et la signification du nom. Or, du fait que ce qui est proféré sous le nom Dieu est conçu par l'esprit, il ne s'ensuit pas que Dieu existe, si ce n'est in intellectu. C'est pourquoi il ne serait pas nécessaire que id quo maius cogitari non posset existe, si ce n'est dans l'intelligence. Et de cela, il ne s'ensuit pas qu'il existe dans la réalité quelque chose dont on ne peut rien penser de plus grand. Et ainsi, il n'y a aucune inconséquence chez ceux qui soutiennent que Dieu n'existe pas. En effet, il n'y a pas d'inconséquence à pouvoir penser que quelque chose de plus grand. Il n'y a pas d'inconséquence à pouvoir penser quelque chose de plus grand que ce qu'il y a dans la réalité ou dans l'intelligence, si ce n'est pour celui qui admet qu'il existe quelque chose, quo maius cogitari non possit, in rerum natura. Donc, je passe très rapidement. Mais ça revient aussi là, donc on voit cette supposition, Saint Anselme suppose qu'il existe quelque chose dans la réalité. Alors, il y aurait aussi à voir la deuxième objection. C'est au chapitre 10. Je crois que je ne vais pas la voir, je vais passer plutôt à la somme, rapidement. Parce que je voudrais voir aussi autre chose alors. Alors la somme commis, je vais très rapidement là-dessus parce qu'il va reprendre un peu dans la somme. Et c'est plus intéressant dans la somme, quoi. Alors s'il y a un condensé, je crois assez formidable dans la somme. C'est la première question, article 2, au sujet de l'ANSIT, si Dieu existe, hein. Et dans le premier article, il se demande si l'existence de Dieu est connue, est évident pour nous, est évident. Alors, dans le corps de l'article, il dit « Puisque Dieu est son essai et que son quid sit est caché à nous, nobis, cette proposition « Dieu existe » est connue per se, secundum se, mais pas quanos. » Vous voyez, donc là, il va très rapidement. Là. Alors, ce qui est intéressant aussi à voir, il précise donc cela. Saint Thomas divise cette fois entre secundum se et quod nos et secundum se et non quod nos. Je crois que c'est une petite précision, mais difficile peut-être à comprendre. Bon, alors, en effet, une certaine proposition connue per se, donc on revient sur ce qu'il a dit dans le De Veritate, est connue per se si le prédicat est inclus in ratione subjecti, comme par exemple l'homme est un animal. Alors je passe. Il donne des exemples toujours au sujet du tout et de la partie. Je dis que cette proposition Deus est, quantum in se est. Donc là, il reprend ce qu'il avait dit dans le De Veritate, non, ou dans le Contra Gentil, non, dans le De Veritate. Alors, Deus est. Donc la proposition Dieu existe, quantum in se est, en tant qu'il existe en lui-même, est évidente, parce que le prédicat est la même chose que le sujet, donc Dieu c'est pareil que est en Dieu. Dieu en effet est son essai. Mais parce que nous ne connaissons pas le quid est de Dieu, pour nous, cette proposition ne sera pas évidente. Mais elle a besoin d'être démontrée par les choses qui sont les plus connues en nous, les plus connues quan nos et les moins connues quan naturam, c'est-à-dire par les effets. Alors, c'est intéressant aussi. Oui, non. Bon, voilà. Bon, je passe rapidement. Et puis alors, si on regarde les objections, c'est les mêmes que dans le... que si l'ordre est très proche du contra gentiles. Voilà, il faut voir donc la deuxième objection. Et donc, je ferai simplement la remarque que... C'est exactement le même raisonnement. Hein. Il s'appuie aussi donc sur le chapitre 2 du proslogium, sur l'argument positif. Mais il y a une plus grande précision, parce que maintenant, il dit saisir par l'intelligence le nom de Dieu. Quoi, vous vous souvenez Si on pense le nom Dieu, donc il est dans la réalité, il est dans l'intelligence. Or là, saint Thomas, dans la Somme, précise vraiment saisir par l'intelligence la signification du mot Dieu. Donc c'est assez loin quand même de saint Anselme, quoi, maintenant. Et alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir dans la réponse à la deuxième objection, il précise « Supposons que tout le monde saisisse par l'intelligence et par ce nom Dieu la signification de ce qui a été dit, à savoir ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Cependant, il ne s'ensuit pas que l'on saisisse par l'intelligence que ce qui a été signifié par le nom existe in rerum natura, mais seulement dans l'appréhension de l'intelligence. » Là, il précise très nettement appréhension de l'intelligence. Je crois que c'est important. Et on ne peut pas conclure que cela existe in re, et on ne peut conclure que cela, c'est-à-dire quo maius cogitari non posse, existe in re, que si on admet qu'il existe in re quelque chose, quo maius cogitari non potest, ce qui n'est pas admis par ceux qui soutiennent que Dieu n'existe pas. Mais je voudrais maintenant faire une petite réflexion, peut-être personnelle, pour voir un peu ce qui est intéressant là-dedans. Parce que surtout voilà. Dans saint Thomas, je crois que le plus intéressant, c'est ce qu'il y a dans la Somme. Je crois qu'il faut relire l'article 1 de la Somme. Regardons rapidement saint Thomas, saint Anselme d'abord. Tout le problème, naturellement, se situe au niveau de... Je crois que le problème qui englobe tout, c'est les rapports entre la foi et l'intelligence. Et pour saint Anselme... Je crois qu'il faut bien, le situer au niveau de la foi. Comme on l'a dit, donc, il est dans un milieu religieux et il intitule le proslogium ainsi, la foi cherchant l'intelligence. C'est-à-dire qu'il veut saisir par la raison ce que la foi, aussi bien ce que la foi affirme de Dieu, la substance de Dieu, et finalement aussi que son existence. Au chapitre 2 du proslogion, il affirmait, il veut comprendre que Dieu est comme nous le croyons et qu'il est tel que nous le croyons. Il veut comprendre que Dieu est à partir de ce que nous croyons qu'il est, à partir, disons, d'une intelligibilité parfaite de Dieu. Il affirmait aussi, je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. Car je crois que je ne pourrais pas comprendre si je ne croyais pas. Et puis au chapitre 2, toujours, il commençait ainsi, « Credimus Deissi aliqui », alors là, je vous fais la remarque, donc là, saint Thomas n'emploie pas le « credimus hein. ». Alors, saint Anselme disait « credimus ». Alors donc, tout l'argument de saint Anselme est fondé sur la foi, et c'est à partir, en fait, de sa foi qu'il va affirmer l'existence de Dieu. Il voudra se séparer dans la suite... surtout dans la réponse à Gonilon, se séparer de plus en plus des sensations, il arrivera à un raisonnement purement logique, mais en fait c'est toujours sa foi qui lui donne l'existence de Dieu. Or, la foi de Saint Anselme, quoi, Saint Anselme croit saisir par sa foi à la fois l'existence de Dieu et puis aussi l'intelligibilité de Dieu. Et on voit que Saint Thomas transforme cette affirmation simplement en Deus est aliquid quo maius cogitari non possit. Alors, c'est toute la question, est-ce qu'on peut dire que Dieu est quo maius cogitari non potest? Et finalement, ça revient exactement à l'objection, à la première objection de Gonilon, qu'il faut supposer que Dieu est quo maius cogitari non potest. Alors là, c'est au niveau, donc, on est à un niveau critique. Et donc, est-ce qu'on peut tout d'abord saisir le quid sit de Dieu? Alors, avec saint Thomas, donc il faut affirmer qu'on ne peut pas connaître ce qu'est Dieu, que ce soit aussi bien par la foi ou que par l'intelligence. Je crois que saint Thomas doit être très conscient lorsqu'il dit, lorsqu'il se réfère à saint Anselme, simplement « Deus est » et non pas « Credimus Deus ». Or, la question en fait, la question du quid sit, semble que ça se situe à plusieurs niveaux, comme on voyait d'ailleurs ce matin. Alors, tout d'abord, il y a la signification première de la réalité de Dieu. Est-ce qu'on peut connaître la signification profonde de Dieu? Donc, est-ce qu'on peut appréhender Dieu? Est-ce qu'on peut avoir un concept de Dieu? Et puis, à un autre niveau, est-ce qu'on peut connaître la signification simplement du mot Dieu? En fait, au niveau du mot Dieu, on ne peut pas saisir. En fait, donc on ne peut pas définir Dieu. Dieu ne peut pas être dans un genre, ne peut pas se définir par un genre et une différence spécifique. On ne peut pas connaître ce qu'est Dieu, aussi bien au niveau de sa réalité profonde qu'au niveau même du mot. Au niveau même du mot, le mot Dieu, c'est un mot qui est donné par les traditions religieuses. On verra que saint Thomas utilise totalement différemment le mot Dieu, utilise différemment le mot Dieu que saint Anselme. Saint Anselme s'appuie sur la signification du mot Dieu pour prouver l'existence de Dieu, alors que saint Thomas, on verra que c'est tout à fait différent. Alors justement, saint Anselme prétend connaître la signification du mot Dieu. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment la signification de Dieu ou seulement une manière d'exister de Dieu au niveau de sa... de son immensité, de son infinité? Bon, je crois que pour saint Thomas, il est clair qu'il n'y a pas de concept de Dieu. On ne peut pas saisir Dieu. Donc on ne peut pas aussi avoir une idée de Dieu. Ça, j'ai pas tellement réfléchi sur une distinction entre la signification et la représentation au niveau de ce problème.
Donc, les traditions religieuses appliquent un nom de Dieu à cause des effets de Dieu dans notre univers. Et qu'à regarder dans la Genèse, chaque fois que Dieu passe, on nomme Dieu. C'est toute la question des noms de Dieu. Et dans toutes les traditions religieuses, on voit des noms de Dieu. Oui. Le nom exprimant justement une réalité existante. Et cette réalité existante à cause de son passage, à cause de son effet. C'est évident que toute la question, et la question de la cuidité de Dieu et la question du nom de Dieu, et que saint Anselme a blanqué les deux. Et enfin, le propre de ça, on va être distingué la question de la cuidité de Dieu, et là, on est tout à fait dans la grande tradition de tous les pères, nous ne pouvons pas connaître ce qu'est Dieu. Donc, en définitive, nous n'avons pas de concept de Dieu. Et tandis qu'aujourd'hui, constamment, on parle d'un concept de Dieu. Même les autorités religieuses, sans faire attention, c'est très très connu, c'est arrivé dans le langage courant. Alors qu'en réalité, ce n'est que le nom de Dieu. Le nom de Dieu exprime quelque chose d'existant et un effet. C'est toujours lié à un effet.
Oui, c'est parce qu'il y a des choses quand même. C'est 38.
Lisez.
Alors, ensuite, après, donc après le problème du quicide de Dieu, comment peut-on passer au problème de l'existence de Dieu? Parce que Saint Anselme part de la signification pour prouver l'existence de Dieu.